Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue à vous, chers auditeurs, pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Il fut fils de l'empereur Tibère par adoption, frère de l'empereur Claude, père de l'empereur Caligula et grand-père de l'empereur Néron. Personnage central de la dynastie des Julio-Claudiens, cet homme qui avait aussi du sang de Marc-Antoine, son grand-père maternel, ne s'est pourtant pas élevé à la charge suprême. Ainsi pourrait-on l'appeler, comme l'ont fait nos confrères de la revue L'Histoire, le prince interrompu. Que se serait-il passé si Caius Julius César, dit Germanicus, n'avait pas été emporté par la maladie à l'âge de 34 ans? Aurait-il remplacé tous ces hommes de cette dynastie dont le sort fut partagé entre l'assassinat et le suicide? Ce prince idéal, dont on sait peu de choses, semble avoir été adulé par ses contemporains. Suétone écrit de lui... Je cite, « On sait que Germanicus réunissait, à un degré que n'atteignit jamais personne, tous les avantages du corps et les qualités de l'esprit. Une beauté et une valeur singulière, une profonde érudition et une haute éloquence dans les lettres grecques, et les lettres latines, une bonté d'âme admirable, le plus grand désir de se concilier et de mériter l'affection de ses semblables et le plus merveilleux talent pour y réussir. » Fin de citation. Un général donc peut-être idéalisé à l'extrême que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec l'historien Yann Rivière. Yann Rivière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste de l'Antiquité, tout spécialement de l'histoire politique et juridique de la Rome antique. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié entre autres « Le cachot et les fers, détention et coercition à Rome et les délateurs sous l'Empire romain ». Et vous avez publié aux éditions Perrin, notre partenaire, partenaire de Storia Voce, un travail absolument magistral, ce qu'on appelait avant une biographie fleuve, mais nous allons revenir sur ce concept de biographie fleuve, consacré donc à ce personnage. Et c'est Germanicus, et c'est très difficile de travailler sur Germanicus en histoire antique. Pourquoi ? Parce que il y a une sorte de double écueil qui est lié au personnage même et à la mémoire qu'il a laissée. Il meurt en 34, il apparaît dans la vie publique véritablement à l'âge de 19 ans, donc on peut dire qu'il vit, sa vraie vie politique dure à peine 15 ans, et par ailleurs, son souvenir est resté principalement et surtout grâce à un personnage unique, qui est Tacite. Et vous avez dû surmonter ces deux écueils.
En effet, au passage, je rectifie juste un petit lapsus que vous venez de commettre. Il est mort à l'âge de 34 ans, et donc en 19 après Jésus-Christ. Simplement le 10 octobre, 19 après Jésus-Christ. Ce personnage, alors en effet, est le héros de Tacite, des premiers livres de Tacite, et l'une des difficultés dans l'écriture de cet ouvrage consistait évidemment à ne pas paraphraser le grand auteur de l'Antiquité, l'auteur des Annales, donc à mettre en perspective son récit, alors même que l'on manque d'autres récits comparables permettant de confronter sa version avec celle d'autres auteurs, ce qui est tout à fait faisable pour des personnages plus connus. Donc, en effet, l'un des obstacles à la rédaction de cet ouvrage a été de mettre en perspective, contourner les choix de Tacite, sans le contredire évidemment, mais de comprendre sur quel fondement Tacite s'appuyait, quelles étaient ses sources pour écrire l'histoire de ce héros. On peut dire que c'est le terme qui convient, tant Tacite semble l'aduler ou en faire un modèle, plus exactement.
Alors, je parlais tout à l'heure de biographie totale, c'est pas vraiment... Est-ce que c'est le terme ? Ça peut être le terme. On se souvient de la biographie totale du Saint-Louis, de Le Goff, mais là, vous suivez quasiment la même voie, c'est-à-dire que vous... contextualiser le personnage dans tous les aspects de l'époque. La guerre, bien évidemment, est très présente et vous fournissez énormément de détails sur ce qu'est la guerre et on est là. Alors quand je lisais votre ouvrage, je pensais évidemment au film, aux premières minutes du film Gladiator, où on voit donc les troupes de Maximus contre les Germains, contre la barbarie germanique. Et cela transpire dans votre ouvrage. Il y a le contexte militaire, mais il y a aussi un contexte familial, les Julio-Claudiens, et un contexte politique particulier.
J'ai, en rédigeant certaines pages de cet ouvrage et en lisant attentivement Tacite, pensé en effet à cette première séquence assez réussie, me semble-t-il, du film de Ridley Scott, Gladiator, où l'armée romaine attend les barbares hurlant à la lisière d'une forêt. Je pense que le film, que le réalisateur du film était informé, s'est renseigné avant de mettre en scène un tel épisode et de mettre en scène la mêlée entre les soldats romains et les barbares, qui n'est pas sans évoquer les sarcophages de bataille, ces bas-reliefs qui représentent les affrontements entre germains et romains. Alors, je reviens sur Germanicus et sur la question de la biographie. En effet, de Germanicus, né en 15 avant Jésus-Christ, on ne sait à peu près rien jusqu'en 4 après Jésus-Christ, hein, donc lorsqu'il atteint l'âge de 19 ans. Tout ce que l'on sait de lui, c'est son apparition figurée sur un monument que l'on peut encore voir, visiter à Rome, qui est l'Hôtel de la Paix, hein, qui avait été inauguré en 13 avant Jésus-Christ, dont la construction avait été décidée en 13 avant Jésus-Christ, et qui avait été inauguré, 4 ans plus tard, en 9. Donc Germanicus, pour les premières années de sa vie, c'est ce bambin que l'on voit accroché au paludamentum, le manteau militaire de son père, Drusus l'Ancien, auprès de sa mère, Antonia Minor, dans une scène de procession assez belle. Donc,
pourquoi l'appelle-t-on Germanicus, d'ailleurs ?
Alors, je reviendrai donc sur la suite. On l'appelle Germanicus précisément en raison des qualités militaires de son père auxquelles je faisais allusion à l'instant, Drusus l'Ancien. Drusus l'Ancien, donc en 13 avant Jésus-Christ, avait entrepris sous l'autorité de l'empereur Auguste la conquête de la Germanie entre le Rhin et l'Elbe. Drusus l'Ancien était, pourrait-on dire aujourd'hui avec notre langage, un fou de guerre, une forme de combattant tout à fait particulier, qui à la fois commandait les armées et était toujours au premier rang des batailles pour vaincre les Germains. Il aurait même envisagé, c'est un détail, je le cite rapidement, d'obtenir ce que les Romains appellent les dépouilles d'opim, c'est-à-dire de tuer au combat un chef ennemi et d'en rapporter les dépouilles à Rome, ce qui ne s'est produit que 3 fois dans l'histoire romaine. Donc Drusus l'Ancien est un personnage, un combattant d'exception. Il a conduit une série de campagnes entre 13 et 9 avant Jésus-Christ pour conquérir la Germanie. Il était sur le point de le faire. Et à l'été 9, alors qu'il s'avançait sur la rive gauche de l'Elbe avec son armée, les sources nous disent, et l'on comprend déjà avec ce détail la difficulté d'interpréter nos sources anciennes, les sources nous rapportent qu'une femme d'une taille extraordinaire se serait avancée sur la rive droite de l'Elbe, avertissant Drusus de sa mort prochaine en raison de son audace, hein, de son hubris, de son excès de vouloir combattre.
L'hubris, c'est la démesure.
La démesure, voilà, la démesure de Drusus. Pour une raison inconnue, je pourrais y revenir, ou en tout cas qui n'est pas précisée par les sources en dehors de cette apparition miraculeuse, Drusus fait demi-tour avec son armée et meurt accidentellement d'une chute de cheval alors qu'il progressait depuis l'Elbe vers ses bases sur le Rhin. Bien. Et pour répondre à votre question, c'est parce qu'il est mort en Germanie qu'il était sur le point de conquérir qu'à titre posthume, un titre honorifique posthume, le Sénat lui a octroyé le nom de Germanicus pour lui-même, donc à titre posthume, et pour toute sa descendance. Voilà. Et donc son fils aîné, celui que l'on nomme Germanicus, porte ce titre en raison de la gloire acquise par son père.
Alors revenons donc sur la chronologie. Vous disiez qu'en fait nous ne savons rien sur la période de sa naissance jusqu'à l'âge de 19 ans.
On ne sait rien, en effet, jusqu'à l'âge de 19 ans.
On connaît sa mère, évidemment.
On dispose de poèmes qui souhaitent un accouchement facile pour Antonia Minor alors qu'elle est enceinte de Germanicus. Mais voilà, on ne tient rien d'autre. Du coup, pour revenir sur la question que vous me posiez initialement de la biographie, que faire ? On ne sait rien de lui jusqu'à l'âge de 19 ans. Mon effort a consisté à dessiner en creux ce qu'avait pu être son éducation, en comparant son cheminement à celui d'autres princes héritiers présomptifs à l'Empire, hein, donc de recréer, sans jamais extrapoler évidemment, oui, avec toute la prudence nécessaire, d'essayer de recréer cet environnement aristocratique, fait à la fois d'apprentissage de la rhétorique, de la poésie. Germanicus est un homme de lettres, mais aussi très tôt d'un apprentissage militaire. Il est absolument évident que ces grandes familles sénatoriales de l'Empire romain avaient toute une culture militaire, que des récits devaient entourer l'enfance et l'adolescence de ces jeunes gens, écoutant les exploits de leurs pères, grands-parents et toute une tradition militaire familiale. Voilà donc l'obstacle qui s'est posé jusqu'à l'adoption de 4 après Jésus-Christ, dessiner le cheminement de Germanicus dans le contexte de son époque.
Cette culture complète que vous présentez, moi qui a été une découverte de voir cet homme de guerre, hein, parce que on le voit sur tous les continents, il part, et enfin il est en l'actuelle Europe, il va au Moyen-Orient, il va en Afrique du Nord. C'est un personnage qui voyage beaucoup, et c'est un personnage qui voyage beaucoup, non pas pour faire du tourisme, mais pour faire la guerre. Est-ce que pour gérer l'État, c'est-à-dire qu'il y a à la fois chez lui ce sens de la culture, ce sens de la guerre, ce sens des armées, mais aussi ce sens politique, est-ce que ça le distingue de ses contemporains, de ses jeunes contemporains ?
Je ne pense pas que ça le distingue. Lui s'est distingué par ses succès, par une série de succès. Et je dirais par une série de succès qui n'ont pas été complètement accomplis. Vous parliez d'un destin interrompu. Hein, et par exemple, il était sur le point, dit-on, de conquérir la Germanie lorsqu'il a été relevé de son commandement, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, oui, et pour être envoyé en Orient, responsable d'une grande mission en Orient pour rétablir l'ordre dans les provinces orientales, régler les questions diplomatiques avec l'Empire parthe voisin et trouver un roi à la tête de l'Arménie. Ce qui est frappant en effet, c'est que des hommes de sa trempe, avec son éducation, s'occupent à peu près de tout. C'est-à-dire qu'on les voit un jour en Germanie à la tête d'une armée commander des mouvements de machines de guerre, s'avancer parfois au premier rang pour combattre. Dans les mois suivants, on le voit traduire un texte de divination à succès, dont on dispose encore hein, dans la collection, la collection des belles lettres. On trouve un volume Germanicus qui avait traduit en latin les phénomènes d'Aratos. Et puis on le voit à Palmyre, par exemple, s'occuper de douanes, de taxes sur des peaux de bêtes, s'occuper de douanes, de déplacement des caravanes. On le voit résoudre des questions à Alexandrie d'approvisionnement en blé. Et puis on le voit, je reviens tout de même sur ce que vous disiez, j'ai dû éviter à mon avis d'employer le mot tourisme, même si on le fait fréquemment, on le voit quand même chez Tacite, dans des déplacements qu'on pourrait appeler touristiques. Mais attention quand on emploie ce terme. Pourquoi touristique ? Tout simplement parce qu'il visite des lieux, des hauts lieux hein, de la culture gréco-romaine. Il se rend à Troie, il se rend dans des sanctuaires. Et en Égypte tout particulièrement, il fait cette remontée du Nil en s'arrêtant devant des monuments qui aujourd'hui sont des objectifs du tourisme. Bon. Mais quand on a dit ça, tourisme, c'est qu'il prend le temps du loisir, de l'otium, pour parler plutôt comme les Romains. Il consacre des moments de loisir à ses visites, mais il faut imaginer ce que représentent les déplacements d'un prince impérial. C'est aussi témoigner du pouvoir et de la force de Rome dans les contrées les plus reculées de son empire. Donc, lorsqu'il remonte le Nil jusque à la première cataracte, il ne s'agit pas simplement d'aller faire des visites. Mmh. Alors, ceci dit, il fait des visites. Hein. À Thèbes, il visite les grands monuments de Thèbes. C'est toute une page de Tacite qui avait fortement marqué les égyptologues, hein, parce que on voit en 19 après Jésus-Christ, au travers du cheminement de Germanicus et de son escorte à Thèbes, le défilé des principaux monuments connus des égyptologues et qui sont pour certains encore debout aujourd'hui. Donc, un homme de guerre, un homme de lettres, un administrateur, mais aussi quelqu'un qui, en tant que prince héritier, visite l'Empire pour se faire connaître de ces peuples qui constituent l'Empire romain et qu'il est appelé en principe à diriger un jour s'il devient empereur.
Alors c'est très important ce que vous dites, parce que il sait qu'il peut être choisi à un moment, c'est-à-dire que au même titre que les rois de France étaient éduqués en fonction de leur possibilité de devenir, que les enfants royaux pouvaient être éduqués dans leur disponibilité à la couronne, lui, Germanicus, sait qu'il peut à un moment accéder à la charge suprême.
Je prends le temps de répondre sur une question fondamentale. Vous évoquiez les rois de France et l'Ancien Régime. Il y avait des règles, il y avait une règle dynastique. Cette règle est complètement absente du monde romain. Puisque le premier empereur, Auguste, affirme, pour faire vite, hein, brièvement, affirme qu'il a restitué la République, qu'il a restitué l'État, et ne peut pas prétendre avoir instauré une dynastie. Donc c'est un jeu complexe qui consiste à respecter en apparence les institutions héritées de la République, tout en conservant le pouvoir au sein d'une même maison, d'une domus, la domus Augusta, qui deviendra la domus divina, hein, la maison divine à la mort d'Auguste et à sa divination. Bref, et c'est dans ce vivier de jeunes gens membres de cette domus Augusta que sont choisis les héritiers du prince régnant. Il se trouve que Auguste, depuis son arrivée au pouvoir en 27, a tenté à plusieurs reprises de mettre en place un système permettant de transmettre à un héritier son pouvoir, et à chaque fois l'héritier présomptif est mort. Et notamment deux princes, Caius César et Lucius César, morts en 2 avant Jésus-Christ et en 4 après Jésus-Christ, devaient lui succéder. Ils étaient, par sa fille Julie, ses petits-fils par le sang, hein, et ce n'est qu'à leur mort, en 4 après Jésus-Christ, qu'Auguste réinvente un autre système dynastique de transmission du pouvoir, en demandant à Tibère, son beau-fils, donc le fils de son épouse, en demandant à Tibère d'adopter Germanicus, et en procédant lui-même ensuite, le même jour, à l'adoption de Tibère, c'est-à-dire à créer
une sorte de filiation
et assurer la transmission du pouvoir pour éviter tout trouble. Et des troubles, pourtant, il y en a eu en 14, comme on pourra peut-être l'évoquer, à la mort d'Auguste. Donc, Germanicus, si on sait rien de lui, je pense, pour résumer finalement le cheminement que l'on a suivi jusqu'à présent, Germanicus, on ne sait rien de lui jusqu'en 4. Pourquoi ? Parce qu'il était, en deuxième ligne, il n'était pas encore héritier présomptif. Hein, ce qui comptait, c'était ce que je viens de nommer, Lucius César et Caius César. Lorsque ces derniers sont morts, on fait appel à ce moment-là à Germanicus, qui devient l'héritier présomptif. Là-dessus se greffe son mariage avec Agrippine, qui descend d'Auguste par le sang, une progéniture de 9 enfants, 3 qui meurent assez jeunes. Bref, le mythe, alors attention à l'utilisation du terme, mais disons que la légende qui entoure Germanicus tient aussi à ce mariage, à ses nombreux enfants, au fait qu'il représente l'idéal de la famille pour l'empereur régnant Auguste.
Sa femme était une femme de caractère. J'ai fait une émission avec Virginie Giraud sur Agrippine la Jeune, oui. Et donc qui est la fille qui est une des filles de Germanicus, et Agrippine
l'ancienne.
L'ancienne C'était une femme vraiment de caractère qui, au fond, était... À un moment, d'ailleurs, vous décrivez, elle doit quitter les camps, si mes souvenirs sont bons.
Voilà.
Elle doit quitter le camp et les hommes la voient partir du camp militaire avec regret, parce que elle apparaît comme ce personnage avec toute sa force.
Exactement. L'époque considérée le tournant de notre ère est une époque au cours de laquelle les femmes de l'aristocratie romaine, de ce monde romain dont on a pu parfois dire qu'il était une cité des pères, de ce monde viril, les femmes de la domus impériale prennent une place de premier plan. Et il semblerait, en effet, même si je me suis peu risqué à la psychologie deux millénaires après, et que là, à chaque fois que l'on croit cerner un trait de caractère chez un auteur, il faut évidemment faire attention au lieu commun, au topos qui l'entoure. Mais enfin, tout de même, oui, Agrippine, cette séquence est très connue, au moment des séditions en 14 consécutives à la mort d'Auguste, doit quitter le camp avec le petit Caligula qui vient de naître, dans un geste très théâtral, qui a bien inspiré d'ailleurs la peinture moderne. Elle est adulée des soldats. On la retrouve l'année suivante sur un pont du Rhin pour empêcher les soldats qui craignent une arrivée massive de Germains, pour les empêcher de détruire ce pont. Et donc, dans cette séquence, elle témoigne encore d'un courage extraordinaire. Mais elle témoigne de ce courage extraordinaire qui est peut-être trop. Agrippine sait qui elle est, elle le répète à l'envi, ça lui coûtera cher plus tard, puisqu'elle mourra pour cette raison, violemment. Agrippine en fait trop, pour parler familièrement, puisqu'elle s'expose devant les soldats et que cela représente un risque, le fait que la femme de Germanicus, ce prince adulé, elle-même soit aimée des soldats, alors que ce prestige ne devrait être réservé qu'à l'empereur régnant Tibère. Et tout à fait significatif pour finir sont les paroles que Germanicus aurait adressées à Agrippine. Elles sont prophétiques, donc il faut les tenir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une reconstruction probablement de Tacite qui anticipe sur son récit. Germanicus dit à sa femme avant de mourir de faire attention, de le venger certes, ce qu'il vient de demander à ses amis, mais de ne pas courir trop de risques, de se méfier de son propre caractère et de ne pas entrer dans des intrigues de cour, de se contenter de poursuites devant des tribunaux.
Alors vous parlez de Tibère, c'est très important parce que, et vous avez évoqué aussi la mort d'Auguste. À la mort d'Auguste, on voit une armée qui est prête à le porter à la place de l'empereur face à un Tibère qui semble trop prudent dans sa politique. Or, Germanicus fait preuve d'une grande fidélité et il prend même un glaive, si mes souvenirs sont bons, prêt à suicider face à ces soldats qui souhaitent le porter au pinacle.
C'est aussi une séquence célèbre, un des plus beaux passages des annales de Tacite. Germanicus, reprenons les choses par le début, en effet, très brièvement, dans les semaines qui suivent la mort d'Auguste, les légions d'Illyrie, c'est-à-dire de cantonnées dans les pays de l'ex-Yougoslavie, et concomitamment les légions du Rhin, 8 légions, donc quasiment le tiers des effectifs de l'Empire, se soulèvent. L'empereur est mort, il y a un chantage, pourrait-on dire, pour aller vite, exercé par les soldats, pour obtenir des avantages, car leur condition condition de soldat est très difficile. On évoquait tout à l'heure le cinéma, Ridley Scott et d'autres, on pourrait parler des péplums. Il n'y a rien de plus lointain de la réalité vécue par les soldats romains que l'image idyllique des acteurs bodybuildés d'Hollywood. Non, ce sont des hommes qui ont servi parfois pendant 20 ans, qui sont épuisés, couverts de blessures, parfois édentés. L'un des soldats demande à Germanicus de plonger sa main dans sa bouche pour vérifier en effet qu'il a perdu toute dentition. Bon. Et Germanicus doit donc réfréner la fureur des soldats, punir les meneurs, et lui-même menace dans un geste très théâtral de se suicider, et avec ironie, un des meneurs, un des soldats, lui propose son glaive en disant qu'il est mieux aiguisé et qu'il parviendra plus vite à ses fins avec le glaive qu'on lui tend en se suicidant. Quand on a affaire à une scène aussi théâtrale, il faut s'interroger, a-t-elle eu réellement lieu ? Tacite invente peu, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il crée un récit, c'est un écrivain, mais au même moment, il se fonde sur des sources. Il est très possible que Germanicus ait accompli cet acte. Quoi qu'il en soit, cet acte s'inscrit dans une tradition sur laquelle il faut insister, qui est celle de la mise en scène du général face à ses soldats. Certains généraux, comme Pompée, peuvent se coucher, s'étendre au sol devant la porte du camp pour éviter aux soldats de fuir. D'autres versent beaucoup de larmes, César et tant d'autres, face aux soldats. C'est une mise en scène, c'est un rapport aux foules qui constituent l'armée, bien différent peut-être de la discipline militaire que l'on connaît, de la discipline moderne.
Donc, quels sont les rapports de Germanicus et de Tibère? Parce que on le verra par la suite, et après la mort de Germanicus, il y a de la suspicion systématique, on vit dans un monde très politique, avec une conception de la vie qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre, avec des suicides, des assassins, on le verra avec Caligula, on le verra avec Agrippine la Jeune, on le verra avec Néron. Est-ce que Tibère fait partie de ces personnages qui se méfient de Germanicus?
Alors, c'est l'objet du prochain livre, mais je peux déjà m'engager. Je peux déjà m'engager pour dire que cette confrontation, évidemment, a nourri la réflexion des auteurs anciens. Il faut penser d'abord qu'en 4 après Jésus-Christ, je reviens sur cet épisode, lorsque Auguste demande à Tibère d'adopter Germanicus, Tibère avait déjà un fils biologique, Drusus le Jeune. Donc, on peut dire que ce lien par l'adoption débutait sur des bases fragiles, puisque Tibère pouvait être enclin plutôt à favoriser la carrière de son fils Drusus le Jeune, un peu moins âgé que Germanicus, plutôt que Germanicus lui-même. Entre 6 et 14, sans entrer dans les détails, durant 8 années consécutives, Tibère et Germanicus sont côte à côte. Germanicus apprend le métier de la guerre auprès de Tibère. Donc, une proximité s'est certainement produite. Mais évidemment, avec une séquence comme celle que vous m'invitiez à évoquer tout à l'heure, en 14, même si Germanicus a fait preuve de sa loyauté, le fait même qu'il était acclamé par la troupe pouvait inquiéter Tibère, évidemment. Certes, il avait été fidèle cette fois-là, loyal, il avait obéi à l'empereur régnant, mais la faveur dont il jouissait auprès des soldats pouvait déjà faire craindre à Tibère. À Tibère qu'il le renverse un jour. Là-dessus se greffe en effet tout un tas de stéréotypes psychologiques. D'un côté, la prudentia de Tibère, sa prudence qu'on retrouve dans le domaine stratégique, sa dissimulatio, le fait qu'il cache toujours ce qu'il pense, si bien que ses interlocuteurs ne savent jamais à quoi s'en tenir. À l'inverse, Germanicus est tout... une conduite de clémence, d'ouverture, de spontanéité. Il y a deux caractères antagonistes. Bien. Mais ces motifs psychologiques sont venus se greffer sur des rapports de pouvoir que je me suis efforcé de détailler dans le livre, parce que ceux-là, on est certain qu'ils ne sont pas une construction ou une extrapolation, si vous voulez, psychologique à partir de données qui circulaient à l'époque.
Est-ce que, j'en viens quand même à la guerre, parce que c'est avant tout un chef de guerre, vous l'avez présenté en face des légions, c'est un homme qui venge en quelque sorte l'Empire sur le front de la Germanie. Il faut rappeler que Varus a été défait par Arminius, et il y a un moment extrêmement poignant où les hommes de Germanicus arrivent là même où Varus a été vaincu, et il y a les restes de cette bataille, et c'est l'homme qui arrive à venger l'Empire.
Exactement, c'est une grosse affaire que cette question de la domination de la Germanie. Pour faire bref, là encore, 30 ans de travaux de l'archéologie allemande ont montré qu'à l'évidence, les Romains étaient en train d'installer une province en Germanie jusqu'à l'Elbe. Et que donc, Auguste ne raconte pas d'histoire dans ses res gestae, son testament politique en quelque sorte, en disant qu'il a conquis l'océan de Gibraltar jusqu'à l'Elbe. Il y avait bien une province romaine en cours de création.
L'océan fait partie de votre livre, on le voit, on voit sur les cartes, à un moment ils prennent des bateaux alors qu'on n'avait absolument pas cette image-là, de cette Germanie-là, du fait d'aller jusqu'en haut en fait, jusqu'à la mer du Nord.
Tout à fait, alors Drusus l'aîné s'y était quand même risqué, Tibère à son tour, Germanicus suit quand même ses modèles, en allant sans doute jusqu'à la Vézère. Mais je reviens à la question initiale. Donc, cette province de Germanie était en cours de constitution. Bien. Sauf que, entre 6 et 9 après Jésus-Christ, les Romains ont dû réprimer une énorme rébellion en Illyrie, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, les pays de l'ex-Yougoslavie. Une fois cette rébellion matée, en 9, très précisément, alors que Germanicus revient à Rome pour annoncer la victoire, on apprend que ce massacre de la forêt de Teutoburg, le massacre des trois légions de Varus, vient de se produire. Il faut donc venger ce massacre et probablement reprendre la province de Germanie. Et là, ce que je me suis efforcé de montrer après d'autres, c'est qu'en lisant attentivement les textes, on s'aperçoit que dès 9, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14 après Jésus-Christ, l'effort de Tibère et de Germanicus consiste à reprendre méthodiquement la domination sur la Germanie. Et lorsque Germanicus, en 14, se retrouve seul, en effet, l'année suivante, en 15, il se rend sur les lieux de la bataille de Teutoburg, où avaient été détruites les trois légions. C'est unique dans l'histoire de l'Antiquité que ce retour sur les lieux d'une défaite, ce qui aujourd'hui est courant dans les représentations de la guerre, avec l'effort de mémoire dont on parle beaucoup, avec la préoccupation de reconstituer, de rendre honneur aux morts. Cette chose-là, je le crois, est sans équivalent pour l'Antiquité, et c'est ce que Germanicus a conduit, en effet, en allant à Teutoburg. Je signale au passage que après des siècles d'hésitation depuis la Renaissance, depuis la redécouverte du texte de Tacite, on s'est interrogé en Allemagne pour savoir où se trouvait ce lieu de la forêt de Teutoburg. Et on pense pouvoir tenir aujourd'hui avec certitude le fait que c'est à Kalkriese, juste à côté d'Osnabrück, un site très précis entre un marais et les premières hauteurs qui entourent ce marais, on a retrouvé le site, le lieu où se serait déroulée cette victoire. Et j'y étais l'été dernier, j'ai pu visiter ce musée qui a été construit sur les lieux, qui montre en effet toutes ces monnaies qui permettent de dater de Varus l'épisode en question. Le musée présente les fosses où ont été rassemblés les ossements en 16, après une exposition au soleil. Bref, avec les méthodes actuelles de l'archéologie, il est possible de préciser ce lieu et même sans doute d'identifier les gestes accomplis par Germanicus et les soldats qui constituaient son armée pour rendre honneur à ceux qui étaient tombés. Et pour terminer sur la vengeance, la mission de Germanicus a consisté également à récupérer les enseignes prises aux légions. Il en a récupéré 2 sur 3. La troisième le sera sous le règne de Claude. Sera récupérée sous le règne de Claude.
Donc, ce front germanique participe de sa légende, puisque vous venez de le dire, c'était la première fois que on revenait sur les lieux d'une bataille de cette façon. On imagine qu'à Rome, on a exalté du coup Germanicus.
J'allais dire au contraire. Bien sûr, il y a eu une exaltation et elle se manifestera à l'occasion de son triomphe, dont on pourrait dire deux mots, puisque ce triomphe nous est raconté par un témoin direct, le géographe Strabon. Bien sûr, sans doute, cela a contribué à son succès. Mais au même moment, vous évoquiez tout à l'heure la confrontation avec Tibère, Tibère s'est plaint devant le Sénat réuni de ce geste de Germanicus qui semblait contredire la religion. Contredire la religion, c'est aussi une grande affaire pour les Romains que ce côtoiement de la mort, qui doit obéir à certaines règles. Et Germanicus, en raison de ce qu'il est, en raison d'une prêtrise qu'il exerce, n'aurait pas dû se livrer lui-même à ce geste presque démagogique, pourrait-on dire, consistant à toucher de ses propres mains les ossements des soldats tombés, morts au combat. En même temps, Tibère craignait que la vue de ce site avec les squelettes épars, avec encore des crânes qui auraient été accrochés par les barbares aux arbres, Tibère craignait que cela ne suscite un effroi considérable dans la foule des soldats.
Donc le triomphe, vous en décrivez plusieurs, hein. Il y a le triomphe de Tibère, notamment après la campagne de Pannonie, d'Illyrie, oui. Qui est très importante parce que on se représente, alors nous Français, on a la vision des Germains de l'Allemagne qui est héritée au fond du 19e siècle, du romantisme du 19e siècle, mais pour les Italiens, la Pannonie et l'Illyrie sont des régions extrêmement importantes parce qu'elles sont en face de l'Italie.
Tout à fait. Le grand soulèvement auquel je faisais allusion, entre 6 et 9 après Jésus-Christ, qui a troublé toute la province de Pannonie-Illyrie. Bon, les noms changent, je n'entre pas dans les détails. Bref, a inquiété les Romains dans la mesure où c'était une rébellion qui pouvait menacer l'Italie elle-même. Et ce n'est pas une figure de style, le fait que certains auteurs aient pu comparer cette rébellion à la menace qu'avait fait peser Hannibal à la fin du 3e siècle avant notre ère sur l'Italie elle-même. Hein, l'ennemi était aux portes. Alors, en effet, les Germains semblaient loin. Hein, et le frisson que se donnent certains auteurs, c'est d'imaginer que les Germains se soient soulevés en même temps que les Illyriens. Et là, la défense de l'Empire aurait certainement été mise à mal. Hein, c'est un système de défense qui consiste à réunir des légions sur le pourtour des frontières, employons ce terme pour aller vite, de l'Empire. C'est un système qui montre ses limites lorsqu'il faut dégarnir un lieu, par exemple en Orient, pour apporter des renforts sur le Danube ou sur le Rhin. Hein, vous voyez, donc, et c'est ce qui se passera avec Marc Aurèle, pour revenir à la période que vous évoquiez d'entrée avec ce film.
Pourquoi est-il envoyé en Orient ? Est-ce que il s'agissait d'écarter ce personnage qui devenait un peu trop gênant, qui remportait des victoires en Germanie face à ce peuple rebelle, face à ces peuples rebelles, parce qu'il y a plusieurs peuples. Germanicus ne termine pas le travail en Germanie et il est envoyé en Orient. Pourquoi ?
Alors, c'est une question importante parce que l'explication, à mon avis, est très conjoncturelle. C'est en effet Tibère relève Germanicus de son commandement en raison de sa prudence stratégique, d'abord, je pense. C'est-à-dire que Germanicus a remporté des victoires décisives en 16, mais au retour, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sa flotte entière a failli périr, toute son armée a failli périr dans une tempête. Donc c'était risqué. Par ailleurs, ces guerres, on a toujours l'impression, en écrivant l'histoire, que l'intendance suivra. Et on ne se rend pas compte, peut-être suffisamment, des quantités, comment dire, à la fois en hommes, en chevaux, en matériel, en armes, en argent, tout simplement, pour payer les soldats, nécessaires pour conduire ces opérations. Donc, Germanicus a été relevé de son commandement alors qu'il n'avait pas terminé le travail, en effet, puisque Arminius, l'ennemi courait toujours. Germanicus avait bien fait prisonnier la femme Tusnelda et le fils d'Arminius, mais enfin, le principal intéressé courait toujours. Donc, il a été relevé de son commandement, peut-être en raison de la prudence de Tibère, par jalousie, dit-on, mais aussi, on peut retourner les arguments et ils se complètent, ils s'articulent entre eux, parce qu'il fallait intervenir en Orient. Donc, attention, ne nous précipitons pas, peut-être, dans l'interprétation toute trouvée par les auteurs anciens, qui est l'interprétation psychologique disant Tibère a voulu éviter que Germanicus remporte une victoire décisive en Germanie. Il avait fort à faire aussi en Orient, comme j'ai tenté de le montrer. Hein, il fallait que ce soit un membre de la famille impériale disposant d'un commandement particulier, sans rentrer dans les détails, d'un Imperium Maius, un commandement sur l'ensemble des Transmarinae Provinciae, c'est-à-dire des provinces d'outre-mer à partir de l'Adriatique. Il fallait impérativement que ce soit un membre de la famille impériale qui dispose de ce commandement pour accomplir les différentes missions, organisation de différentes provinces, désignation d'un roi d'Arménie, tractations, négociations diplomatiques avec les Parthes. Mmh. Vous voyez, donc, il y a certainement des éléments de rivalité, mais en même temps, il y avait une nécessité à l'envoyer en Orient au moment où l'empereur pouvait se dire que l'opération était risquée de poursuivre en Germanie.
Alors c'est là où il rencontre un légat qui s'appelle Pison, et longtemps on a cru que ce personnage avait assassiné Germanicus, et d'ailleurs il sera jugé pour cela. Or, vous rétablissez en quelque sorte une vérité en disant que ce n'est pas le cas, et qu'il s'agit d'une forme de procès, en tous les cas Pison, de procès politique.
Alors, tout est parti de là, finalement. Comme vous l'indiquiez au départ, je m'intéresse à l'histoire institutionnelle, politique, au droit criminel romain, et il se trouve qu'un document tout à fait exceptionnel, sans équivalent, a été découvert dans les années 80 en Espagne, qui est le verdict du procès de Pison, hein, accusé initialement de l'empoisonnement de Germanicus, mais très vite disculpé de ce grief, et finalement condamné post-mortem pour lèse-majesté, parce qu'il avait attenté à la sécurité de l'Empire et à la sécurité du prince. Alors, pour dire les choses brièvement, lorsque Germanicus reçoit son commandement, son imperium maius sur l'ensemble des provinces de l'Orient romain, il faut apporter, sans rentrer dans les méandres du droit constitutionnel romain, il faut bien souligner une distinction entre certaines provinces qui relèvent du Sénat et sur laquelle Germanicus a une autorité incontestable, et certaines provinces comme la Syrie, à la tête de laquelle se trouve un légat qui relève de l'empereur. Donc si vous voulez, au moment où Germanicus est envoyé en Orient avec ce super commandement, pour parler brièvement, Tibère a le soin de nommer à la tête de l'armée de Syrie un personnage plutôt hostile à Germanicus, en relevant de ses fonctions un certain Criticus Silanus qui s'y trouvait, et qui lui était au contraire très lié à Germanicus. Donc c'est un mécanisme de pouvoir qu'on retrouverait dans nos bureaux à l'époque moderne, et dans un mécanisme de pouvoir qui consiste à octroyer un pouvoir tout en plaçant un pion susceptible de rendre compte directement au pouvoir central de ce que fait celui qui a été doté de ce pouvoir exceptionnel. Vous voyez, en bref, le légat de Syrie, Pison, rendait compte à Tibère directement des actions de Germanicus. Donc, la situation s'est envenimée, j'en détaille les étapes dans un des chapitres. Pison prétend toujours dépendre uniquement de l'empereur. Auprès des soldats, il se présente comme celui qui dépend de l'empereur et s'oppose, parfois ne répond pas aux ordres de Germanicus, même quand la vie de Germanicus est en jeu. Par exemple, lors de son voyage en Arménie, il devait lui envoyer des renforts, ce qu'il ne fait pas. Mmh. Hein? Là-dessus, ce greffe, vous évoquiez Agrippine tout à l'heure, ce greffe, une hostilité ou une confrontation, une rivalité entre la femme de Pison, Plancine, et Agrippine, l'épouse de Germanicus. Bien, si bien que tout cela crée une situation explosive. Alors, lorsque Germanicus rentre d'Égypte à la fin de l'été 19 et qu'il tombe grièvement, qu'il tombe atteint d'une maladie grave, chacun soupçonne Pison d'en être à l'origine par empoisonnement. On ne peut pas concevoir, écrit un auteur, je crois que c'est Suétone, qu'un prince aussi aimé, adulé, puisse mourir aussi précipitamment, sans soupçonner l'empoisonnement. Alors, évidemment, l'histoire des Jules le Claudien va dans ce sens, tant la violence est présente, qui préside à la mort de chacun d'entre eux. Bon, là, en l'occurrence, il se trouve que Germanicus est très probablement mort de maladie, une maladie foudroyante, et je ne saurais pas m'avancer pour dire laquelle, qui n'a sans doute pas été empoisonné. En tout cas, le verdict repousse l'accusation d'empoisonnement, hein, mais retient en revanche une accusation de lèse-majesté à l'égard de Pison, en raison de son comportement à l'égard d'un prince de la famille impériale, Germanicus, et surtout parce que Pison, après la mort de Germanicus, a levé une armée pour récupérer sa province de Syrie, et ça, faire conduire des soldats romains à se battre contre d'autres soldats romains, c'est réveiller le spectre de la guerre civile et c'est commettre une faute irréparable dont Pison ne se rend compte à peu près qu'au moment où il rentre à Rome, tant il est certain d'avoir l'appui de l'empereur.
Est-ce que, Yann Rivière, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, est-ce que cette adulation de ce personnage qui va perdurer à travers les siècles, vous montrez dans votre conclusion les différents âges, est-ce que ce n'est pas dû au fond au fait qu'il n'est pas, qu'il n'a pas su, non pas de savoir, mais qu'il n'a, qu'il est mort trop tôt et il n'a pas été entaché en quelque sorte par le pouvoir, un pouvoir qui corrompt naturellement, tout comme Tibère a été corrompu et tout comme sa descendance, la descendance de Germanicus, sera également corrompue. Est-ce que ça aurait pu être, sans vouloir rentrer dans l'Uchronie, un nouvel Alexandre ?
Alors, justement, évidemment, je ne vais pas rentrer dans l'Uchronie, même si j'écris dès les premières pages que l'histoire de Germanicus s'écrit au conditionnel pour ses contemporains. Ah, s'il avait vécu, que se serait-il passé ?
C'est un sentiment qui existe chez ses contemporains. C'est-à-dire que il regrette sa mort parce que ça aurait été obligatoirement un grand prince.
Alors, c'est ce que pensent les contemporains, ce n'est pas ce que pense l'historien auteur de ce livre. Je veux dire que on ne peut évidemment pas imaginer cela. Les sources sont contradictoires. Un exemple, on dit que Germanicus, comme son père, avait pour intention de rétablir la libertas, la liberté, donc le régime républicain. Mais au même moment, comme vous le disiez, par des gestes, par ses propos même, hein, qui ont été enregistrés d'une certaine façon, sur un papyrus à Alexandrie, Germanicus se prend, pour aller vite, pour Alexandre le Grand. Il accomplit des gestes aussi importants que Alexandre le Grand. Bien des empereurs seront saisis de... et César, avant lui, l'avait déjà été saisi par ce modèle. Donc cet exemple, cette contradiction qu'il y a entre la volonté supposée de Germanicus de rétablir la République et par ailleurs, le fait qu'ils se prennent pour un souverain hellénistique, ou en tout cas l'archétype du souverain hellénistique, montre qu'il y a déjà une inconnue complète sur ce qu'il serait devenu. Les auteurs disent « lui n'est pas devenu un monstre ». Donc, en fait, Germanicus, c'est l'anti-vide Suétone. Dans ses vies des 12 Césars, Suétone brosse des portraits de monstres, et les quelques lignes qu'il consacre à Germanicus, c'est toujours pour dire, lui ne serait pas devenu un monstre. Évidemment, on n'en sait rien, et je ne suis pas risqué, je crois, un instant, une ligne, une note, pour considérer ou donner mon opinion à ce sujet. Je n'en ai pas.
En tous les cas, vous êtes risqué à traiter de ce personnage, et le résultat est absolument magnifique. Donc, Germanicus, un ouvrage paru chez Perrin, dans la collection Biographie, une très très belle biographie hein, qui, je le rappelle, hein, contextualise véritablement le personnage avec le règne d'Auguste. Et puis, vous continuez d'ailleurs, vous ne vous arrêtez pas à la mort de Germanicus, vous abordez la descendance et le sort de cette descendance donc, qui, comme je disais au début de l'émission, se conjugue entre soit l'assassinat, soit le suicide. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Yann Rivière, donc Germanicus chez Perrin. Je remercie aussi Amandine Dumas qui m'a aidé à préparer cette émission et Georges à la technique. À très bientôt, chers auditeurs, restez fidèles aux grands entretiens de Storia Voce. N'hésitez pas à parler de Storia Voce autour de nous. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens.